Bonjour, vous êtes bien sur Aligre FM 93.1 dans l'émission La vie est un roman. Et il n'échappera à personne que la voix que vous entendez actuellement n'est pas celle d'Yves Tanré, le créateur et l'animateur de cette émission, dont nous fêtons ce mois-ci les 10 ans, mais celle de son fidèle chroniqueur Frédéric Gournay. Yves, je sais que tu nous écoutes, on te souhaite un prompt rétablissement, on espère te revoir très bientôt. Aujourd'hui, nous recevons Marielle Primois-Bizot pour son livre Le Vif Argent, aux éditions Exil, et Patrice Von Hersel pour L'Aventure d'Actuel, telle que je l'ai vécue chez Albin Michel. Bonjour Marielle Primois.
Bonjour.
Alors vous, vous avez consacré un livre à Jean-François Bizot qui s'appelle Vif Argent. Il faut rappeler que c'est le fondateur du magazine Actuel, qui est une revue mensuelle qui a existé entre 1970 et 1995, et de la célèbre Radio Nova. Alors vous avez été sa dernière compagne, sa femme et la mère de son fils, de votre fils. Vous avez partagé la vie de Jean-François pendant 15 ans, il est mort en 2007. Pourquoi ce livre maintenant ?
Ce livre, j'ai commencé à l'écrire il y a très longtemps, on va dire après sa mort, puisque c'était une façon de rester en communication peut-être un peu. Je pense que c'est assez commun, les gens ont envie de faire ça pendant un deuil. D'ailleurs, j'ai appris il y a peu de temps qu'il y avait d'autres livres qui existaient comme ça, qui étaient des lettres, en fait, des sortes de lettres envoyées à un défunt. Donc, voilà, ça a été... Au début, ce n'était pas un livre du tout. C'est en l'écrivant que je me suis rendu compte que je pouvais arriver à cerner sa personnalité à travers ses textes. Voilà.
Il fallait attendre que... Alors, pour le terminer, ce livre, il fallait que le deuil soit fait ou c'est plutôt le livre qui vous a permis de faire le deuil ?
Non, je crois qu'il fallait attendre que le temps passe, oui, bien sûr.
Le temps passe, oui. Alors, c'est un très beau livre, plein de vie, avec beaucoup de style. C'est l'œuvre d'une véritable écrivaine. Vous avez voulu restituer surtout l'incroyable vitalité de Jean-François Bizot.
Oui, peut-être, oui. Oui, bien sûr, sa vitalité.
Son énergie créatrice.
Voilà, c'est ça, oui, et dans laquelle il emportait les gens qui travaillaient avec lui. Ce n'était pas que pour lui, il partageait cette énergie.
Alors, à quel moment de sa vie vous le rencontrez-vous, personnellement ?
Moi, je l'ai rencontré d'une façon complètement professionnelle et pas du tout personnel. Quand j'ai travaillé à Actuel, très tôt, j'avais 22 ans, et c'était l'époque où Actuel vendait 350 000 exemplaires, les années 82-83, ils étaient en pleine effervescence, et j'ai pas réussi d'ailleurs à tenir, alors que j'étais très jeune, j'aurais pu avoir l'énergie, mais c'était tellement difficile de les suivre. Non pas à la rédaction, parce que moi j'étais à la technique, j'étais à la mise en page, donc j'avais rien à voir avec les journalistes, et donc avec Jean-François, qui était mon patron. Mais quand on était derrière à la technique, au secrétariat de rédaction, à la fabrication, on subissait tous les retards ou tous les délires créatifs, il fallait rattraper le retard, et c'était vraiment très, très dur, même physiquement, de tenir. Je me souviens d'une fois où on a travaillé, on arrivait toujours vers 6-7 heures, c'était pas la peine d'arriver le soir, 19 heures, pas la peine d'arriver avant, puisqu'en fait, ils arrivaient tous, la rédaction, vers 16 heures, quelque chose comme ça. Et donc, on avait les premiers sujets à monter en maquette. C'était à la main, hein, on ne faisait pas avec l'ordinateur.
Ouais, ouais.
Et on avait travaillé comme ça toute une nuit. On n'était pas parti parce que je ne sais plus ce qu'il y avait, mais il y avait quelque chose qui faisait qu'il fallait qu'on soit là pour continuer. On les attendait, bien sûr. C'était beaucoup, des heures et des heures d'attente. Et puis, on a refait une nuit par derrière. Donc moi, à la fin, à l'aube, je prenais mon typomètre. On avait un typomètre pour mesurer les signes, les caractères. Enfin bref, je confondais les centimètres et les millimètres. J'étais plus capable de mettre une cote sur une photo avec une telle fatigue. Voilà. Donc c'est comme ça que, on va dire, je suis rentrée en contact avec cet univers. Et puis après, la vie a fait que plusieurs années après, on s'est rencontrés dans un concert et c'est comme ça que
j'ai commencé. C'était quel concert ?
C'était un concert dans une... C'était une, une boîte de nuit, enfin une boîte de nuit, oui, enfin un endroit qui s'appelait le Zoupsi. La Gaîté Montparnasse, peut-être un truc comme ça, derrière la tour Montparnasse. Et il y avait, je ne sais plus quel concert ce soir-là. Est-ce que c'est Nina Hagen? Je crois que Nina Hagen, c'est pas le concert, mais voilà, c'est de cette époque. Et moi, je travaillais dans un journal de mode qui s'appelait Glamour, et du groupe Condé Nast. Et voilà, c'est là qu'on s'est vu, quoi, disons. Enfin, lui, il m'a pas reconnue puisque j'étais une stagiaire, enfin pas stagiaire, mais très débutante à Actuelle. Donc forcément, il y a beaucoup de débutants qui passent toujours partout, donc on s'en souvient pas. Par contre, moi, je me souvenais de lui, donc c'est comme ça que les choses ont démarré.
Alors, quand vous le rencontrez, vous le dites dans le livre, hein, c'est déjà un peu la fin de la presse, la fin des radios libres. C'est un grand tournant, à la fois dans sa vie et puis dans notre société.
Oui, l'histoire, je ne vais pas vous raconter, ce n'est pas très intéressant de parler de l'histoire personnelle, mais disons qu'il y a eu un stop, enfin bon voilà, dans notre relation, et puis c'est quand on s'est mis à vivre ensemble, voilà, que effectivement il fermait le journal, et Nova existait toujours bien sûr, il allait tous les dimanches soirs d'ailleurs faire une émission avec Rémi Kopakopoul, et c'était oui la fermeture d'Actuel, le démarrage de Nova Magazine, le magazine de Radio Nova, mais qui n'a jamais été la même, voilà, qui était un City Magazine beaucoup moins intéressant, voilà.
Alors, Jean-François Bizot, c'est pas seulement un créateur de médias, hein, de journaux, de radio, c'est aussi et surtout un grand découvreur de talents.
Oui.
Il avait une curiosité inlassable pour tout ce qui était nouvelle création.
Oui. Oui, j'avais envie d'en parler dans mon bouquin parce que il y a quelques personnes qui lui rendent hommage. Il y a, je sais pas, Omar Sy, par exemple, à chaque fois, il parle de Jean-François dans la moindre interview. Mais
oui, il a dit j'aurais voulu devenir Jean-François Bizot. Ah bon, c'était son modèle de vie. C'était son idéal.
Mais pas toujours. Quand il était jeune. Pas toujours. Pas assez, je trouve. Pas assez. C'est tellement énorme. Et puis alors là, on parle de gens qu'on connaît, des gens des médias, de la télé, de cinéma, mais il y a aussi les artistes, les plasticiens, les musiciens, tous ces gens-là dont on ne parle jamais, mais qui sont un type comme Barcello, il a démarré parce que Jean-François lui a donné un endroit pour peindre, enfin a démarré en France. Donc c'est au niveau, enfin l'apport culturel pour le pays est gigantesque. D'ailleurs, il y a un journaliste qui s'appelle Thomas Johnson qui il y a quelques années voulait faire, qui fait des documentaires maintenant, et qui avait imaginé faire un documentaire sur justement ce côté-là de Jean-François, en allant voir les artistes en question, plasticiens et tout ça, et les faire parler de cette époque et de Jean-François.
Il faut savoir qu'il a lancé énormément d'artistes grâce à Actuel, mais surtout Radio Nova, et que ces gens-là, après, ont nourri littéralement Canal+. Je crois que c'est 27 personnes qui sont passés par Actuel et Radio Nova, qui se retrouvent à Canal+, qui sont devenus des gens très connus, des gens qui marchent actuellement. Et c'est vrai qu'on entend peu, la reconnaissance ou la gratitude.
Oui, d'ailleurs, vous avez compris, j'étais directeur artistique, et tous les journaux où j'ai pu travailler par la suite, je n'avais pas besoin d'amener mon book. Je disais juste que j'avais passé deux petites malheureuses années à Actuel. On me prenait tout de suite. Le dire que c'était... et donc, pour eux aussi. Parce que si ça marche pour moi, ça marche pour tout le monde.
Oui, il faut savoir que c'est quand Actuel sort, ça change le journalisme en France. C'est-à-dire qu'il y a Libé, il y a Actuel, il y a une interaction entre les deux. Il y a aussi plein d'autres médias qui, d'un coup, s'aperçoivent qu'on peut faire les choses autrement. On peut raconter autrement l'actualité ou la nouveauté.
Oui, on peut, et puis aussi, on peut être dans une démarche positive sur la société. On peut essayer de... parce que la contestation, c'est bien beau, mais il faut surtout apporter une envie du désir, une envie de vivre autrement, de penser autrement, d'admirer d'autres gens. Voilà tout ce qu'Actuel proposait.
Et c'est surtout marquant, c'est que dans les années 80, qui est un peu une période normalement de déprime, de dépression politique et morale et même spirituelle, Actuel a à cœur de garder le désir, l'envie, le plaisir et l'optimisme.
Oui, parce que je pense que ce qui a été pourquoi on avait du mal à les copier, c'est justement parce que ils avaient des racines chez les hippies. Enfin, c'est pas le mot est peut-être.
Oui, le grand mouvement hippie des années 60, 70.
Voilà. Alors ça, c'était là. C'était les racines. Mm-hmm. Donc après, ils pouvaient parler de Bernard Tapie, de je ne sais qui, de tout ce qui pouvait se passer dans les années 80. Il y avait ce regard qui était un regard créatif, intéressant. Enfin, vous voyez, donc même s'ils avaient déjà 30 ans et ce n'étaient pas des jeunes, tous ceux qui essayaient de lancer des magazines, comme ça a pu être Globe ou d'autres, n'étaient pas dans cet état d'esprit. Mm-hmm. Et voilà, donc c'est ça le secret du truc, quoi. C'est d'avoir gardé son originalité et son honnêteté.
C'est vrai qu'avec le recul, on s'aperçoit qu'ils n'ont pas cédé au cynisme ou à l'opportunisme de ces années 80 qu'on a beaucoup maudit, mais que les gens d'actuel ont peut-être vécu autrement. En tout cas, moi, pour ma génération, par exemple, Les Inrecuptibles, qui a été l'autre grande création journalistique des années 90, 2000, passaient leur temps à dire que les années 80 étaient horribles, qu'on avait perdu les idéaux des années 60, 70. Voilà, et actuel montrait le contraire. Alors, donc, la passion de Jean-François Bizot, c'était vraiment les avant-gardes culturelles et les nouveaux courants musicaux.
Oui, mais c'était surtout les gens. C'était les gens. C'était,
c'était comme des
histoires d'amour à chaque fois avec les gens. Enfin, c'était homme ou femme, enfin, c'était les gens. C'était le contact humain. Le contact humain.
Alors, on pourrait dire, il y a une devise rimbaldienne qui lui va bien, c'est l'amour de l'inconnu ou l'inconnu de l'amour. C'était un peu ces deux,
oui,
ces deux,
c'est très joli.
Ces deux axes.
Oui.
Oui, ça lui va bien, je trouve.
Mm-hmm, tout à fait.
Dans votre livre, vous parlez bien de son envie de partir permanente, le fait qu'il s'en aille pour rencontrer d'autres personnes, faire d'autres choses sans cesse. Quelle était la part de quête et la part de fuite dans ces départs incessants?
Je pense que peut-être ça a dû changer avec les années. J'imagine que quand il était plus jeune, c'était peut-être plus de la quête, je pense. Mais moi, quand j'ai fait ça, mes années à moi avec lui, tout devenait un peu plus dur. Tout était plus dur. Le journal avait fermé. Il avait moins en moins de soutien. Tout était délité. Donc, peut-être qu'il y avait une côté fuite aussi dans ces voyages. Donc, effectivement.
Vous évoquez même une incapacité à faire lien, une certaine forme de misère affective. C'est un Don Juan, on peut le dire. Vous le dites d'ailleurs. Qu'il y avait beaucoup de conquêtes féminines. Vous êtes la seule avec laquelle il est resté, avec laquelle il s'est marié, et qu'il a eu un enfant. Donc, je ne sais pas comment vous posez la question, mais vous pensez qu'à un moment, il a éprouvé le besoin quand même de faire un lien et de fonder quelque chose, ou c'était autre chose?
C'est-à-dire autre chose.
C'était vous, votre histoire d'amour singulière, différente, unique?
Moi, je ne connais pas ces autres. Je connais pas ces autres histoires d'amour. Je pense que
celle-là était particulière. Pardonnez-moi, j'interromps.
Oui, oui.
Elle était parce que quand même, j'ai vécu avec lui pendant combien de 73 à la fin. Ça fait quand même. Ça fait combien?
Ça fait 50 ans.
Ça fait 50 ans. 50 ans. Et on a vu passer du monde, ça c'est sûr. Mais sa relation avec Marielle Primois était étonné. Les gens ne comprenaient pas. Moi en faisant connaissance avec elle, j'ai bien compris. C'est-à-dire qu'elle était, elle était particulière parce qu'elle était très intelligente et qu'elle avait un rapport très fort à la presse. À la presse.
Et oui, ça c'est important.
Parce qu'elle était née dedans, en fait. Peut-être que tu pourrais dire deux mots de ça, je ne sais pas.
Oui, peut-être c'est ça. On ne peut pas savoir. On ne peut pas savoir. Ça, je ne peux pas expliquer ça.
Tu es
né
dedans, tu as un réflexe.
Ah oui, être né dans la... Oui, bah oui.
Tu as un réflexe de presse qui l'intéressait, qui... Vous avez beaucoup parlé de journalisme, et d'ailleurs, tu le dis.
Oui, bien sûr, oui, oui. Non, mais ça c'est évident, mais ça, c'est toujours comme ça entre les gens. Il y a toujours des liens.
Mais c'est un peu... Un squelette dans votre incroyable histoire d'amour. Ton livre est une déclaration d'amour dingue, enfin magnifique, très très belle. Mais,
Donc c'est Patrick Van Hersel qui vient d'intervenir à juste titre et au très bon moment pour nous parler de la relation entre Marielle Primois et Jean-François Bizeau. Vous êtes toujours sur Aligre FM 93.1 avec donc Marielle Primois et Patrice Van Hersel pour nous parler des années Nova et des années actuelles. On va faire une première pause musicale, si vous voulez bien, avec un morceau de Debussy qui s'appelle Clair de lune. Et puis après, je pense que Marielle va nous dire pourquoi elle a choisi ce morceau. Vous êtes toujours sur Radio Aligre 93.1 en présence de Marielle Primois et de Patrice Van Hersel pour nous parler de Jean-François Bizeau. On vient d'écouter un morceau de Debussy. Marielle, pourquoi vous avez choisi ce morceau ?
J'ai choisi ce morceau parce que, comme je le raconte dans mon livre, Jean-François a réécouté peut-être la musique de son enfance, de ses parents. En tout cas, les vieux disent que de ses parents qui étaient à la maison. Et puis parce qu'il est très nostalgique, peut-être qu'il a à voir avec mon livre qui est quand même assez nostalgique aussi.
Pas tant que ça.
Ah
tant
bon
que ça pas tant que ça. D'abord, il est porté par un style qui empêche de céder à la facilité de l'amour du passé. Et puis ensuite, comme Jean-François Bizot était un être très vivant, entouré de beaucoup de gens, vous restituez ça, donc ça, tout ça revient. Donc ça, en tout cas, moi, je n'ai pas aperçu tant que ça la nostalgie. En tout cas, ce n'est pas ça qui l'emporte. Alors, on vient d'écouter ce morceau. Vous écrivez très bien à propos de Jean-François Bizot. Vous voulez savoir qui était Jean-François ? Commencez par visiter sa discothèque. Chaque disque vous racontera une histoire.
Oui, bah oui.
C'était très important la musique quand même dans sa vie. C'était sa plus grande passion peut-être. C'était le fil conducteur en tout cas. C'était ce qui lui permet de se diriger, de se repérer.
Oui, je crois, oui. Oui, oui. C'était ça, bien sûr. Bah, il était à la maison, il écoutait de la musique perpétuellement. Et puis... il cherchait tout le temps des nouveaux morceaux pour la radio. Il y avait même des sessions avec... il demandait à des gens de la radio de venir, s'ils voulaient, le dimanche, pour faire ça avec lui. C'était son occupation favorite. Donc, on revenait toujours du bout du monde avec des tonnes de disques. Il a fait ça toute sa vie. Donc, Radio Nova, d'ailleurs, est la seule radio qui a une discothèque, à part Radio France.
Mmh.
Physiquement, les disques sont là.
Oui, oui. Donc, c'est des vinyles principalement.
Oui, oui. Ouais.
Alors, il précisait, vous le citez, « Attention, underground, mais pas contre-culture. Parce que dans contre-culture, il y a trop contre et trop de culture. »
Oui, oui, c'est le genre d'humour.
Non, mais c'est très précis et puis ça le résume bien.
Oui, bien sûr, tout à fait. Ouais. Tout à fait.
Alors, il était, il faut le dire, c'était un grand bourgeois qui a perçu un héritage considérable au jour de ses 21 ans. Donc, il est d'un milieu très aisé et il était quand même fasciné par la marginalité, notamment par le situationnisme, par Debord, etc. Mais aussi par les pays qu'on peut dire, à l'époque on appelait ça les pays pauvres, après on appelait ça les pays en voie de développement. Il était attiré par des modes de vie très simples, comme en Afrique, en Inde.
Mais il voulait, je crois qu'il y a une forme de... Il y a une forme d'enfermement quand on est dans ce genre de... C'est pas l'argent, c'est surtout l'éducation. On est très, 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 très éduqués, on vous apprend énormément de choses, vous êtes polyvalent. Enfin, il aurait pu être ministre ou je ne sais quoi. Enfin, ou même, il avait un diplôme de... Il était chimiste, il avait un diplôme. Alors, vous voyez, vous êtes boosté complètement parce qu'il avait une éducation, on va dire, à l'ancienne. Donc, à l'époque, les gens de ce milieu éduquaient leurs enfants. C'est pas... L'argent ne suffisait pas, il fallait aussi une certaine, et puis d'ailleurs du coup une éthique, une certaine morale qui allait avec. Et donc lui, il avait eu ça, donc il avait un capital énorme. Mais après, est-ce que ce milieu l'intéressait beaucoup? C'est ça, je crois qu'il a recréé, il s'est recréé un monde, une famille d'ailleurs, quelque part avec les gens qui vivaient autour de lui, et puis un monde à lui. Qui n'avait rien à voir avec tout ça. Il y est revenu, bien sûr, comme vers eux en étant malade, parce que bon, voilà, c'est évident. Il faut, on peut pas échapper toute sa vie à ce qu'on est. On est né dans une quelque part et on a des frères, des sœurs, des voilà. Mais ça a été, oui, je crois que on peut raconter ça comme ça. Et puis aussi, il y a une dureté. On n'en parle jamais. Je ne vais pas commencer à plaindre les gens qui sont aisés, mais il y a quand même une dureté dans cette éducation. Parce que, vous savez, il ne faut pas que les gens soient ramollis. C'est comme les gens qui font polytechnique. On leur fait faire des classes. Donc, il y a un côté comme ça et un côté assez, assez dur. Je ne peux pas dire sentimentalement, mais affectivement. Donc, on peut ne pas être d'accord avec cette vie-là et en choisir une autre, choisir sa vie, en fait.
Il a toujours cherché à être libre.
Oui, c'est ça, oui.
La liberté comptait plus que tout, parce qu'il faut préciser quand même qu'il avait un certain goût pour le sabordage. C'est-à-dire, dès qu'un truc marchait un peu, voire beaucoup, il arrêtait.
Oui, mais
c'était la même logique, d'après vous, cette idée de ne pas vouloir être enfermé, de ne pas...
Non, mais si,
être un rentier d'un succès quelconque.
C'est-à-dire, l'idée de capitaliser sur quoi que ce soit ne l'intéressait pas, ni sur les gens, ni sur l'argent, ni sur... Ça s'appelle capitaliser. Donc, ce qui l'intéressait, c'était de découvrir. Et après, effectivement, les gens avaient beaucoup moins d'intérêt à ses yeux. Enfin, il les aimait bien. Il n'était pas, parce qu'il y avait une forme de fidélité. Donc, c'est pas, je veux plus vous voir, salut. Mais allez-y, faites votre vie. Il les envoyait, il les libérait un peu, vous voyez, d'un carcan qu'on a tous. Et c'était ça son truc. Il voulait que les gens se libèrent. C'était ça sa relation avec les gens. Et pas voilà, donc c'est pour ça que il voulait pas spécialement, ce que je raconte dans le livre, il voulait spécialement les garder à la radio, ni c'est pas du sabordage, c'est autre chose. Puis je me souviens qu'il disait toujours, même au niveau de la communauté, on peut appeler ça, de Saint-Maur ou du journal, il disait toujours, il faut pas prendre les gens qui veulent venir, parce que les gens qui veulent venir dans le journal ou dans la maison, on va dire, c'est des gens qui ils viennent y chercher quelque chose. Et ils viennent là parce qu'ils ont reconnu quelque chose qui pourrait leur plaire ou leur donner un sens à leur vie ou à leur... mais d'accord, ça c'est bien pour les gens, mais pour le journal ou pour la maison, ça n'apporte rien parce qu'il faut du sang neuf. Il ne faut pas des gens qui viennent là parce qu'ils ont envie d'y être. Il faut des gens qui... C'est ça l'histoire. Il fallait toujours du sang neuf pour avancer, en fait, dans la création.
Alors vous écrivez très bien qu'il avait l'élégance d'aimer l'autre pour ce qu'il était, sans compte ni contrat.
Oui.
C'était son premier rapport aux gens, aux personnes.
Oui, oui,
bien
sûr.
Quelles que soient leurs origines, oui, oui. Leur niveau de vie.
Oui, oui, et puis il y avait... Alors, du coup, alors c'est un peu... Je pense qu'il y avait... Par exemple, à Nova, je me souviens, il n'y avait pas de titre vraiment. Enfin, il y avait forcément quelque chose écrit sur les fiches de paye, mais je veux dire, tout était un peu flou. Tout d'un coup, il pouvait demander à quelqu'un son avis, à la dame du standard. Il jouait avec les personnalités. Et je sais que quand la radio a été rachetée par Mathieu Pigas, ils ont fait un organigramme. Ils avaient besoin d'un organigramme.
Ils n'en avaient jamais fait. Ça n'existait pas chez...
Ça n'existait pas. Voilà. Enfin, c'est un truc de marketing. Enfin, il ne connaissait pas le marketing, Jean-François. Ouais. Il n'avait pas besoin. Ça ne l'intéressait pas du tout. Donc, ça m'a amusé, ça, d'apprendre qu'il y avait un organigramme qui était fait. Voilà, à cette époque.
Vous écrivez aussi, à la fin du livre, « Puissance vitale et autodestruction présidaient à ta vie entière, tendue au service d'un unique but. » Nouer le plus de rapports et de liens possibles avec la pluralité du monde.
Ben ouais, c'est ce que je viens de dire.
Ouais. Mm-hmm. Ça résume bien le personnage. Il répétait aussi des fois, la vie est une comédie. Tout ça n'est que comédie. C'était jamais tragique ?
Oh, ouais, enfin, quand c'est des petites histoires d'argent ou de je sais pas quoi. Non. Tout ça n'était pas... Il parlait jamais de ce genre de choses. Ou il riait quand les gens étaient un peu minable, un peu ridicule, ça l'amusait, mais c'est pas par perversion, mais ça l'amusait, quoi.
C'est la comédie sociale dont il se moquait plutôt.
Oui, voilà.
Le petit théâtre politique et socio-économique. Et il avait aussi un fond, parce que ça a été aussi un écrivain qui a écrit un livre, qui s'appelle Les Déclassés. Et vers la fin de sa vie, il écrivait des poèmes, je crois, en tout cas. Il avait ça en lui, ce fond artiste, créateur, qu'il aurait peut-être voulu être davantage.
Oui, je pense que ça a été un peu... s'il y a un ratage, c'est celui-là. Enfin, je ne peux pas dire qu'il y a un ratage dans sa vie, mais disons qu'il s'est embarqué avec une équipe, des gens, une société. Enfin, vous voyez, bon, voilà. Et puis, du coup, des responsabilités. Il se sentait très responsable des gens autour de lui ou... Même quand il a fermé son journal, il a fait des choses tout à fait correctement pour chacun. Donc, si vous voulez, on ne peut pas tout être en même temps dans l'existence. Donc, tout ça, ça vous fait des soucis, c'est une lourdeur, quoi, de chaque jour qui fait que je crois qu'il aurait adoré vivre plus longtemps pour justement s'alléger. Et il était sur le chemin de ça, mais il n'a pas eu le temps. Et vraiment, créer pleinement lui, écrire ou je ne sais pas, ou autre chose. Mais il n'a jamais pu. Et ça, ce n'est pas assez dit, ce côté-là de sa personnalité. Voilà. Il s'est un petit peu... Je pensais qu'il... Peut-être s'il avait été cinéaste ou... Il y a des métiers, vous ne gardez pas les équipes ou... Vous voulez reformer pour une opération, pour un... Voilà, et puis, voilà. Mais là, un magazine, c'est ou une radio.
C'est comme une famille.
Oui, voilà, voilà. Donc bon.
Me reste son œuvre, une forme d'œuvre tout à fait admirable, qui est actuelle, l'histoire d'actuel, l'histoire de Radio Nova, tous les artistes qu'il a défendus, qu'il a promus, qui sont reconnus depuis. Merci beaucoup, Marielle Primois, de venir témoigner et parler de votre livre qui s'appelle Le Vif Argent, aux éditions de l'Exil. Vous êtes toujours sur Aligraph FM, pardon, 93.1. Donc, on vient d'entendre Marielle Primois parler de Jean-François Bizot, avec lequel elle a été mariée pendant 15 ans.
Aligre FM 93.1.
Maintenant, nous allons parler toujours du même homme, mais avec Patrice Van Hersel.
Bonjour.
Bonjour Patrice. Vous aussi, vous avez très bien connu Jean-François Bizot, parce que vous avez été de la première mouture, comme on dit. Vous avez commencé avec lui à Actuel dans les années 70.
J'ai rejoint la première mouture. Je rêvais quand j'avais fait des études pour devenir journaliste. Et quand Actuel est paru, c'était clair que c'était là que je voulais jouer, j'allais dire.
Vous étiez à Libération, ce qui était déjà pas mal.
Non, j'étais pas encore à Libé. J'étais encore à l'école.
Ah, d'accord.
Et la directrice de l'école m'avait dit, mais enfin, Van Hersel, vous n'allez quand même pas travailler au journal de Mickey. Parce qu'elle comprenait rien, elle connaissait pas. Et il y avait des BD dans Actuel. Il y avait des BD de Crump, de Shelton, de... Et puis aussi de Cobb, et puis bon, et donc pour elle c'était le journal de Mickey, mais non, c'était le journal de la contre-culture. C'était
il va dire pour ça. Elle la maquette
alors, moi,
devait
je
être...
dis contre-culture, oui. Mais, et lui donc lui il aimait pas ce terme, il préférait dire underground, mais donc souterrain, c'était la marge, une autre manière de vivre. C'était le journal qui parlait des communautés, de la route vers l'Inde, de la marijuana, ça c'est sûr, mais d'une autre façon de tout concevoir. Et je rêvais de travailler là, et c'était pas évident tout de suite. On ne m'a pas du tout recruté comme ça. Il a fallu que... Alors effectivement, Libé naissait à ce moment-là, donc j'ai fait partie de l'équipe fondatrice de Libé, où j'étais pendant 2 ans, donc en 73-74, mais je réussis au bout d'un moment à faire des piges, à envoyer des articles. Et Jean-François Bizot, un jour, m'a appelé au téléphone. Chez les gens chez qui j'habitais, il y avait un téléphone. Parce que je n'avais pas de téléphone dans ma chambre de bonne. Et il me dit, il faut venir, mec. Mon premier article lui avait plu. Et donc, j'ai pu, comme ça, faire partie de l'équipe en tant que pigiste. Et quand, finalement, j'ai été engagé vraiment dans l'équipe, le journal fermait. C'était une sorte de tristesse, sauf que au même moment, on s'installait ensemble, puisque Jean-François a eu cette idée un peu folle d'installer le noyau de son équipe dans une maison qu'il possédait, dans un hôtel particulier à Saint-Maur-des-Fossés. Et donc, on est devenu une communauté de journalistes, on a fait des tas de choses. Avant de relancer le journal sous une autre forme. Cette fois-ci, c'était pas... Quand on a relancé d'abord avec 2 almanachs, 77-78, et en 1979, on relance un mensuel. Cette fois-ci, c'est complètement différent. C'est plus du tout underground.
C'est un succès commercial et critique.
C'est partir dans le monde entier, chercher de l'inspiration, chercher... guetter le monde entier pour essayer de trouver où il y a de la création, où il y a tous azimuts, quel que soit le sujet. Et Jean-François, pour ça, a été fantastique, parce que ça pouvait être des histoires policières, par exemple, mais ça pouvait être des histoires scientifiques. Ça m'a beaucoup intéressé. On était 2-3 à vraiment suivre les nouveautés scientifiques, mais ça pouvait être aussi des histoires chamaniques, spirituel et évidemment musical. Mmh. Évidemment musical.
On en a parlé avec Marielle. Il avait quand même donc une curiosité inlassable. Avant qu'on aille plus loin dans votre histoire avec Jean-François Bizot, je sais que vous avez lu le livre de Marielle Primois. Est-ce que vous avez retrouvé le Jean-François Bizot que vous avez connu? Est-ce que vous avez découvert des choses que vous ne connaissiez pas?
Alors oui, des choses que je ne connaissais pas certainement, puisque je n'étais quand même pas dans l'intimité de leur couple. Mais au début, Au début, elle a commencé à écrire. Elle a commencé à écrire sur leur voyage, parce qu'ils ont beaucoup voyagé. Elle avait commencé à écrire sur leur voyage. Elle m'avait donné ça à lire, et j'avais trouvé tout à fait remarquable qu'elle ait un rapport à l'écriture. Parce que ça, ce n'est pas tout le monde. Tout le monde n'a pas un rapport à l'écriture. Vous pouvez toujours essayer d'écrire. Or, Marielle Primois, on la connaissait en tant que graphiste. Elle était artiste visuelle. Elle était capable, elle a fait, à la fin de la vie de Jean-François, ils ont fait plusieurs livres magnifiques. Et donc, c'est une graphiste, donc une artiste visuelle. Et puis là, je découvrais, et je l'ai vivement encouragée à poursuivre, mais pendant des années, elle a fait plusieurs livres, d'ailleurs. Je crois que Vif Argent, c'est son cinquième livre. Son cinquième livre.
Oui, c'est le cinquième. Mais les autres sont moins...
C'était des
brouillons, enfin, au niveau du style. Enfin, c'était, voilà, c'était des enquêtes.
C'était plus journalistique. C'était des sujets de société avec des personnes marquantes.
Oui.
C'est plus politique.
Le premier chez Macron...
Attention à la marche.
Attention à la marche, c'était comme une enquête. J'y suis allée pour voir et je suis restée parce que ce que je voyais m'hallucinait. Et après, j'ai essayé de le raconter avec un peu de légèreté, on va dire. Mais je tiens à dire
avec,
quand même.
Avec pas mal de prévoyance aussi. Hein. Vous avez bien senti la fumisterie de l'aventure.
Oui, mais ce qui m'a quand même. On parle de journalisme, donc. Personne n'a fait ce que j'ai fait.
Mais c'est un coup de chance. Personne.
Non, mais attends, mais personne s'est dit, mais ce type est en train de monter, on va aller voir.
Alors que c'était l'usage jusqu'à présent de suivre un candidat.
Mais oui. Voilà. Vous vous rendez compte du truc? Non, mais franchement.
Tu as été très, très surprise parce que, ayant été. Là, parmi les volontaires du QG, du tout jeune fringant Macron, elle est tombée à la renverse parce qu'ils n'avaient pas, tous ces jeunes gens, n'avaient pas la fibre politique. C'était des...
Pas de conscience politique du tout.
Ils n'étaient pas politiques.
Et pas de programme, et pas d'idées.
Ils étaient dans le marketing.
Non, c'est ça, par contre...
Ils étaient dans le marketing, très sincèrement.
Oui,
ils faisaient des levées
par
de fonds.
Justement... Il y a une chose dont je parle, mais c'est trois lignes dans mon livre, mais je vais en reparler là, parce qu'on avait interdiction, parce qu'à un moment, je me suis retrouvée au courrier, c'est-à-dire qu'il fallait répondre. Et donc, qui écrit encore par la poste les gens de plus de 50 ans, on va dire. Donc, on avait des lettres de gens qui se posaient des questions sur les retraites. C'est-à-dire que le sujet de la retraite et la pension de réversion, et ça, était la préoccupation des Français qui écrivaient à ce candidat qu'allait gagner. Et le placard derrière moi se remplissait de courriers parce qu'on avait interdiction d'y répondre. C'est-à-dire que pour tous les autres sujets, on pouvait baragouiner je ne sais pas quoi, baratiner quelque chose, mais les retraites, mais je vous assure, c'est fou quand même. Hein. C'est-à-dire que déjà, le sale coup était prévu. C'est ça que je veux dire. Enfin, je ne sais pas si c'est... Mais en tout cas, les gens considèrent que c'est un sale coup. Et il était déjà prévu en amont. Ça m'a fait rire quand j'ai vu Farir.
Ça a été ton premier essai. Puis après, elle en a fait trois autres. Et là, le Vif Argent sur Jean-François Bizot, c'est tout à fait différent. Là, c'est vraiment personnel. Elle reprend un tout petit peu des lettres de voyage. Mais elle raconte... De façon très littéraire, là, ça n'est plus un essai journalistico-politique, c'est un morceau de littérature. Je pense que tous ceux qui l'ont, je pense que vous êtes d'accord avec moi.
Absolument, je l'ai dit au début de l'émission, je le répète, c'est une écrivaine avec un très grand style, et puis c'est un très beau livre, très émouvant, très juste, et c'est pas la portée de tout le monde de témoigner comme ça.
Donc, voilà. Donc sinon, évidemment, j'ai appris des choses, mais c'était un couple, on habitait dans la maison d'à côté, donc c'était un couple un peu à la Richard Burton, Elizabeth Taylor, je ne sais pas si vous voyez, il n'y a que des seniors comme moi qui peuvent à qui ça fait référence, mais c'est un couple qu'on pouvait entendre éventuellement des éclats tard la nuit. Mais ben elle ne l'évite pas, ça, elle
oui,
en parle.
Oui, oui.
Elle en parle dans... De... Et donc, c'était un personnage qui suscitait comme ça des passions. Mais il était généreux. Quand... ce que j'aurais voulu dire quand vous avez posé tout à l'heure la question de ses origines, mm-hmm. très fortunées, etc., mm-hmm. c'était quelqu'un qui aurait pu, je pense qu'il avait les capacités de monter un empire de presse, il aurait pu devenir un Lagardère, oui, mais il n'en...
Ou un Mathieu Pigasse.
Mais il n'en avait fondamentalement pas envie parce que cela l'aurait écarté, éloigné du terrain. Or, lui, ce qu'il aimait, c'était aller sur le terrain. Jusqu'à la fin, il avait déjà... Il y avait le journal actuel qui marchait très bien. Il y avait la radio qui était considérée comme unique. Certains disent mm-hmm. unique au monde. Mm-hmm. Des Américains qui disaient...
C'est un moment à Paris où oui. il se joue quelque chose en musique de très important. Où Paris redevenait le centre du monde dans la création musicale.
Oui.
Et notamment avec les musiques nord-africaines et les musiques subsahariennes, mais aussi les musiques indiennes. Enfin, c'était ce qu'on a appelé la world music et dont vous avez été le premier...
À dire que nous, on disait la sono mondiale.
Voilà, c'est un terme qui vous appartient, je crois.
Oui, oui c'est mondiale. Moi qui avais...
Ce qui est beaucoup plus beau que world music, parce que world music... David Byrne a montré à quel point le terme pouvait être méprisant. Mais voilà, sono
et
mondiale.
Et donc, pour revenir sur Jean-François, il aurait pu, mais ce n'était pas du tout dans son ADN. Lui, ce qu'il avait envie, c'était de rester, comme je disais, sur le terrain. Jusqu'à la fin, il partait en reportage. Mm-hmm. Il partait, alors imaginez un grand patron de presse, aujourd'hui... en haut de son building, il descend pas dans la jungle pour rapporter un reportage. Alors, ce qui était un peu emmerdant, c'est comme c'était le patron, on pouvait pas trop le couper, parce que ses reportages, quelquefois, étaient très très longs, et pouvaient prendre jusqu'à 10-12 pages du journal, mais ils étaient très bons, parce qu'il avait une écriture, et là aussi, une chose que vous disiez, il a écrit un livre, il en a écrit plusieurs, mais effectivement, le plus important, le premier, c'est Les Déclassés, et Les Déclassés, il a frôlé le Goncourt.
Oui, à une voix, il l'a raté.
À une voix près. C'est-à-dire qu'il avait, et de toute façon, là, c'était un petit groupe, parce que c'était lui, c'était Patrick Rambaud, c'était Michel-Antoine Burnier, ils étaient quelques-uns à forger un style.
Oui, d'ailleurs, si je peux te couper,
oui.
Il dit, je ne sais pas si je l'ai dit dans le livre, enfin, non, il le dit lui, d'ailleurs, dans l'extrait, parce qu'on n'a pas dit ça, qu'il y avait un extrait d'explication de sa part, de ce qui a été actuel dans mon livre, puisque je retranscris une bande,
une vidéo,
où il parle, c'est la seule, je crois, trace de sa vision à lui du journal et de ce qu'il voulait faire. Et il dit, je crois que c'est là qu'il dit que le deuxième actuel, c'était encore une fois parce qu'il n'y avait pas de place pour écrire ailleurs. Sinon, il était OK, hein, il aurait... Et lui, comme tu dis, c'était un reporter. Il était voilà. Donc, il a relancé un journal parce qu'il n'y avait pas de journaux. Il n'y avait rien. Mmh. C'était morne pleine encore pour écrire et s'exprimer. Il ne pouvait pas s'associer avec d'autres.
Il y avait un peu Libé. D'ailleurs, il y a eu, après des quelques années où Libé et Actuel étaient très, très opposés de manière caricaturale, il y a eu des années d'amour, on peut dire, entre Libé et Actuel. C'est la fin des années 70, le début des années 80. L'arrivée des socialistes au pouvoir arrête un peu le truc parce que Libé va devenir plus ou moins le journal du régime. Mmh. Et à ce moment-là, ça va un peu changer. Mais quand même, il y a eu toutes sortes de passerelles entre les deux journaux. Sinon, non, j'en vois pas. Je vois pas. Il fallait faire Actuel, qui avait été influencé quand même tout à fait en amont, il faut le dire, par une certaine presse.
Une presse anglo-saxonne.
Anglo-saxonne. Mmh. Hein, le nouveau journalisme.
Mmh. Ou Gonzo aussi, on appelait ça.
On peut appeler ça Gonzo. Ouais. Que ça soit de Rolling Stone, que ça soit de Oz Magazine, de Ramparts, Mais les anglo-saxons eux-mêmes disaient que le résultat de cette recherche frénétique, parce que c'est vrai que on avait un côté frénétique. Mais Marielle a parlé tout à l'heure de deux nuits blanches de suite. Moi, j'en ai connu. Le maximum, ça a été quatre. Mais à la fin, vous êtes mort à la fin de quatre. Mmh. Mais tellement on était passionné par...
Mais avec des substances ou pas? Des adjuvants?
Je vais pas nier. Pas trop, parce qu'on serait mort. Mmh. On serait mort. Longtemps. Au début, la très bonne amphétamine que consommait quelqu'un comme Jean-Paul Sartre, par exemple, nous avait influencé un petit peu. Mais c'est une très bonne. Mais c'est très, très, très dangereux. Ce n'est pas pour rien si les Américains disaient « speed kills ».
Oui.
Speed kills. Les amphètes, ça vous tue. Mm-hmm. La coke, un peu moins, mais la coke, c'est moins chaleureux. Non, on avait un usage, je dirais, rationnel. Rationnel. C'était pas du tout l'écroulade. C'était comme au 18e siècle, on a commencé à boire du café, n'est-ce pas? C'était très, très spécial.
Le tabac aussi est arrivé.
On dit que la Révolution française a été influencée par, pas que par les caves pillées, mais aussi par le café.
D'accord. Vous êtes toujours sur Aligre FM 93.1, en présence de Marielle Primois et de Patrice Van Hersel, pour nous parler de Jean-François Bizot. Vous avez choisi un premier morceau de musique, Patrice, pour faire la pause musicale. On va écouter et puis après, vous nous direz pourquoi vous avez choisi ce morceau. Vous êtes toujours sur Aligre FM 93.1 en présence de Patrice Van Hersel et de Marielle Primois pour nous parler de Jean-François Bizot. On vient d'écouter un titre que je pense que Jean-François Bizot adorait. C'est un titre de Fela. Vous pouvez nous dire pourquoi vous avez choisi ce morceau?
Ah, bon, alors pour moi, c'est mon premier voyage en Afrique.
Donc le Nigeria.
Au Nigeria. Je devais faire une enquête sur les pirates qui pillaient les bateaux qui attendaient pendant 6 mois dans le port de Lagos. Et au dernier moment, Jean-François me dit, tiens, ben, pendant que tu seras à Lagos, il faisait ça facilement. Mais quelquefois, ça pouvait être, tiens, pendant que t'es à Sydney, fais donc un saut à Melbourne. Il y a une... là, c'était dans la même ville. Pendant que tu seras à Lagos, va donc voir un artiste qui peut être intéressant, qui s'appelle Fela. Il s'appelait encore à l'époque Fela Ransom Kuti. Il a changé ensuite Fela Anikulapo Kuti. Et c'était... je m'en suis vite rendu compte, et c'est devenu beaucoup plus intéressant même que l'enquête sur les pirates dans le port. C'était à la fois un grand musicien, mais un chef de bande, un leader politique. C'était un Bob Marley plus un Malcolm X. C'était incroyable. C'est un Yoruba. Donc, c'est une des grandes ethnies du Nigeria. Il y a les Haoussa dans le nord, les Yoruba à l'ouest et les Igbos à l'est. Mais dans le pays tout entier, on célébrait ce musicien qui avait commencé des études de médecine, comme ses frères, mais qui très vite s'était arrêté à Londres et qui avait embrasser la cause des Black Panthers en allant aux États-Unis, et puis qui décide d'inventer... Alors, il est complètement fou, il me disait, nous allons réinventer la roue, il veut que l'Afrique s'autonomise et réinvente tout pour elle-même. Alors, au passage... il fait des choses très, très folles, comme par exemple d'épouser ses 28 danseuses. Il était déjà marié, il avait déjà 3 enfants, mais il épouse ses 28 parce qu'il veut revenir. Il veut revenir à une Afrique d'ailleurs mythique, parce que je ne sais pas s'il y a peut-être eu des rois africains qui ont eu 28 épouses, mais il pousse très, très loin le bouchon. Je dirais avec un certain humour, mais un humour qui est mordant. Il se moque de la propension qu'ont les Africains, comme les peuples des pays plus pauvres, de vouloir absolument imiter. Alors, il se moque de ceux qui imitent l'Occident chrétien. Il se trouve que son grand-père était un pasteur protestant, d'ailleurs, qui a joué un rôle dans le fait qu'il aille dans la musique, parce que son grand-père... avait gravé lui-même des gospels en tant que pasteur.
Est-ce que tu sais où Jean-François en avait entendu parler? Il t'envoie là-bas, mais...
Il m'envoie là-bas parce que... J'avoue que c'était tout simplement... Il y avait eu un festival d'art nègre, comme on disait, à Berlin, où il était venu. Avec ses choristes, ses musiciens, et à ce festival, eh bien, il y avait un reporter, il faut le dire, de Paris Match. Et il y avait eu un grand reportage dans Paris Match. Et donc la photo, la première photo qu'on publie dans l'almanach d'actuel des années 80 de Fela au milieu de ses femmes, c'est une photo qu'on a achetée à Paris Match, je veux dire. Ensuite, on s'est beaucoup revus, on a fait des reportages formidables sur lui avec des photos extraordinaires. Il y a eu une expo Fela à la Villette il y a 4-5 ans où on a exposé toutes les photos de notre photographe qui était Michel Maillot-Fils, qui a fait des photos fantastiques.
Donc l'Afrique, ça a été le premier choc dans votre vie. Et vous racontez très bien dans votre livre, L'aventure d'actuel telle que je l'ai vécue, que c'est d'abord la plus grande aventure de votre vie et que vous avez eu trois grandes révélations. Donc la première, c'est l'Afrique, si je ne me trompe pas. Voilà. La seconde, c'est que vous découvrez aussi une forme de spiritualité ou de mysticisme. En tout cas, vous êtes initié aux psychotropes, à un autre champ de conscience. Donc c'est la drogue, il y a l'Afrique, la drogue, et puis après, les États-Unis, le New Age.
Oui, c'est-à-dire que le New Age, et en particulier une partie du New Age qui est rude, contrairement à l'image soft du New Age, qui est l'accompagnement des personnes en fin de vie et les expériences de mort imminente. Et en fait, je suis entré dans ce que les Américains appellent le Death and Dying Movement, le mouvement de la mort et du mourir, en mauvais français, parce que je m'intéressais de façon très scientifique aux neurotransmetteurs, à la chimie, à la symphonie chimique que nous avons en nous en permanence, qui est faite d'hormones, d'anticorps et de neurotransmetteurs. Les neurotransmetteurs nous passionnaient, parce que c'était une façon d'expliquer pourquoi les drogues ont un effet sur nous. C'est que les drogues, toutes les drogues, se font passer, elles ont des molécules proches de molécules que nous avons à l'intérieur. À l'intérieur, nous avons un arsenal de drogues extraordinaire. Et c'est parce que je m'intéressais à ça que je me suis retrouvé aux États-Unis.
Et donc,
là, j'ai découvert pour la première fois que les matérialistes pouvaient être purement idéologiques. C'est-à-dire des scientifiques qui prétendaient avoir trouvé l'explication de l'expérience de mort imminente. Vous savez ce que c'est, l'expérience de mort imminente. Eh bien, ils n'avaient fait aucune recherche. Et j'ai bien été obligé de reconnaître que ceux qui s'opposaient à ces matérialistes avaient raison.
C'est un livre qu'on aurait dû faire. C'est un livre que Jean-François voulait faire avant de mourir. C'était New Age. C'était un livre, une compilation de tes articles. C'est ce qui était en chemin.
Merci beaucoup d'être venu dans l'émission de Yves Tanret, La vie est un roman, pour nous parler de Jean-François Bizot, Marielle Primois, Patrice Van Hersel. Il y avait tellement de choses à dire, on n'a pas pu tout aborder, mais je pense qu'on a quand même atteint certaines choses. Merci beaucoup Yves, si tu nous écoutes, on pense à toi très fort et à la semaine prochaine ou au mois prochain.
Vous écoutez Aligre FM 93.1.